Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Nous sommes le lundi 29 février 2016 et c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine à 6h du matin ou quand vous voulez en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible, c'est une tête chercheuse par semaine et cette semaine nous allons avec l'islamologue Sabrina Mirvin parler des chiites et des sunnites, des guerres et des paix entre ces deux mouvements fondateurs de l'islam. En deuxième partie, littérature aujourd'hui, je reçois Céline Curiol à l'occasion de la sortie de son dernier roman « Les vieux ne pleurent jamais ». C'est édité par Actes Sud. Tête chercheuse avec Sabrina Mirvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes islamologue chargée de recherche au CNRS et vous dirigez le centre Jacques Berck à Rabat. Et toute cette semaine, avec vous, on va parler des chiites, des sunnites, de leur guerre et de leur paix. Aujourd'hui, premier épisode, expliquez la naissance de ces deux courants, puisque il s'agit bien de deux courants dans l'islam. On va commencer par la scission, donc, à l'intérieur même de l'islam.
Alors, d'abord, en fait, ça va être trois courants, trois grandes branches, on va dire, donc les sunnites, les chiites, et une branche vraiment très minoritaire, qui est celle des kharijites, qui a disparu avec le temps. Les kharijites eux-mêmes ont disparu, mais il reste les ibadites qui sont issus du kharijisme et qui sont véritablement très peu nombreux. Alors cette scission, puisqu'on en parle de cette manière, on en parle comme d'une scission, elle a en fait des moments fondateurs. Le premier, c'est bien sûr la mort du prophète, en 632. Il décède, il n'a pas d'enfant mâle, et il n'a pas laissé de testament. Donc il va y avoir des dissensions au sein du groupe, et du groupe vraiment de ses proches, c'est-à-dire c'est sa famille, ce sont ses compagnons, qui ne vont pas s'entendre sur la personne qui va être à même de lui succéder. Donc c'est là où on voit qu'il y a déjà des divergences, que certains vont choisir Ali, donc qui est le cousin et le gendre du prophète, le mari de sa fille Fatima, et donc ensemble ils vont lui donner deux petits-fils, Hossein et Hassan. Et puis d'un autre côté, on a ses compagnons, Abou Bakr et les autres, et c'est Abou Bakr qui va être choisi par les compagnons. Donc d'un côté, on a une espèce de volonté de dynastie, c'est-à-dire l'héritage par le sang. Et d'un autre côté, c'est l'héritage par la proximité. Bon, cela dit, Ali était aussi, lui aussi proche du prophète. Donc en fait, ce qui se joue là, c'est d'une part un choix de personne, ensuite le mode d'élection, bien sûr, qui est discuté. Et puis toujours, de toute façon, cette proximité avec le prophète et donc cette légitimité qui aura l'héritage, donc, le véritable islam.
Déjà, du vivant du prophète, cette rivalité était perceptible, Sabrina Mirvin, et le prophète ne prendra jamais une position claire pour les uns ou pour les autres.
Non, bien sûr. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, quand on a un chef charismatique, il réunit tout le monde. Mais quand il n'est plus là, on n'arrive plus à routiniser ce charisme. Et donc là, ça explose. Et donc chacun va essayer de retrouver la figure charismatique qui manque. et chacun va proposer d'autres figures charismatiques et d'autres et aussi alors d'autres institutions. Donc c'est là qu'on voit comment se sont fondées peu à peu, parce que ça va prendre vraiment beaucoup de temps, d'un côté le califat et de l'autre l'imamat. Alors, en fait, le califat, donc, en arabe, ça veut dire khilafa, c'est donc tel qu'on le conçoit la plupart du temps, c'est la, donc la succession. Le calife, c'est celui qui succède au prophète. Et il faut bien voir que dans le Coran, ce n'est pas la signification qu'a le mot calife, enfin. C'est autre chose. C'est le représentant de Dieu. Et en fait, tout ça est à rapprocher aux monarchies sacrées, le roi, était le représentant de Dieu sur terre.
Et il y a une rivalité entre les imams d'un côté et les califes de l'autre ou pas ?
Oui, mais alors, encore une fois, tout ça est en pleine construction. C'est-à-dire que à l'époque, c'était simplement des rivalités de personnes au milieu, dans des clans. Ensuite, on a appelé ça califat, imamat, et les doctrines, les institutions se sont construites. Hein, l'imamat, ça a pris du temps pour le construire. En fait, à l'époque, les mots qui étaient utilisés, c'était imam, effectivement, aussi bien pour ceux qui allaient devenir les sunnites que pour ceux qui allaient devenir les chiites. L'imam étant le chef divinement inspiré, le guide spirituel divinement inspiré. Et il y avait aussi le terme Amir el-Mu'minin, c'est-à-dire le commandeur des croyants. On a des dissensions au sein du groupe qui a entouré le prophète. Les compagnons, Aïcha, son épouse favorite, des compagnons, et puis Ali. Il y a des dissensions. On a une première bataille qui est la bataille du chameau. Et puis ensuite, on a l'assassinat de Osman. Et on a en 657 une bataille qui oppose Moawiya, qui est du clan des Banu Umayya, et Ali, donc le cousin et le gendre du prophète. Donc pendant la bataille de Siffin, on a un arbitrage. Après cet arbitrage, il y a deux groupes qui se forment. L'un a suivi Moawiya, ce sont ceux qui vont devenir les sunnites, et les autres ont suivi Ali, ce sont ceux qui vont devenir les chiites. Mais il y a aussi un troisième groupe qui lui a refusé l'arbitrage en disant « Il n'y a de décret que de décret divin, c'est Dieu qui doit décider de l'issue de la bataille et non pas les hommes. » Donc eux, ils font scission de toute façon avant même l'arbitrage. Et eux, ce seront les kharijites. Voilà. Donc on a là les trois grands groupes. Sauf que ils ne sont pas véritablement constitués à cette époque-là. Il va falloir encore du temps pour que toutes les doctrines qui sont discutées déjà à ce moment-là, mais qui vont aussi évidemment continuer d'être discutées, des doctrines purement théologiques, se cristallisent autour de personnes et que finalement on arrive à, disons, à peu près au XIe siècle, à trois grandes branches qui sont à peu près constituées. Mais déjà, à l'intérieur de ces trois grandes branches, il y a aussi des dissensions et des groupes qui se forment.
Mais jusqu'au XIe siècle, sunnites, chiites et kharijites, c'est-à-dire l'ensemble des musulmans, pratiquaient le même islam, avaient les mêmes références, ou déjà il y avait des différences d'appréciation, des différences de pratique aussi?
Alors, il y avait déjà des différences de pratique. Par exemple, au 8e siècle, à Koufa, il y avait déjà des différences de pratique, même au sein des chiites qui habitaient là. Mais il y avait aussi une communauté autour de la personne du prophète, autour surtout du livre saint, autour du Coran. Le Coran est le même pour tout le monde. Alors ensuite, autour aussi du hadith, donc de ce qu'on appelle la sunna du prophète, sauf que, bon, après, chacun va avoir sa conception de la sunna, hein, c'est-à-dire que les textes ne sont pas exactement les mêmes. Mais le principe de prendre le prophète pour modèle et d'avoir un ensemble de textes qui racontent ce que le prophète a dit et a fait dans sa vie pour se conformer à ce modèle, est le même chez les chiites, chez les sunnites et chez les Kharijites.
À quel moment on utilise le mot scission pour dire que qu'il y a deux courants dans l'islam? Vous nous avez parlé bien sûr des Kharijites, qui est un petit groupe, mais les deux grands courants que sont le sunnisme et le chiisme.
Mais en fait, c'est nous qui parlons de scission, parce que il n'y a pas eu une scission à un moment donné. Il y a eu des moments fondateurs, donc la mort du prophète, la bataille de Siffin. Pour les chiites, il y a un moment fondateur qui est très important, c'est la bataille de Karbala en 680, qui est vraiment un moment dans le chiisme. Et non seulement ça, mais c'est en plus un moment qui est revécu chaque année. En 680, une bataille oppose Hossein, qui est donc le fils de Ali, au fils de Muawiya. Donc, on avait déjà Ali et Muawiya s'étaient battus ensemble pour le pouvoir. Ensuite, leurs fils vont se battre à leur tour. Muawiya, en fait, avait renié le califat de Ali et s'était installé sur une grande partie du territoire. Quand il est mort, il a laissé son pouvoir à son fils, Yazid. Or, Hossein a refusé de prêter allégeance à ce nouveau calife. Et il a été appelé par les habitants de Koufa pour contrer ce nouveau calife. Donc, il est parti et il s'est dirigé vers Koufa pour aller rejoindre les habitants de Koufa. Et à ce moment-là, il était intercepté par l'armée Omeyyade, dans un endroit qui s'appelle Karbala, au bord de l'Euphrate. Et là, il y a eu une bataille dans laquelle il a trouvé le martyr et aussi ses compagnons, une partie de sa famille, deux de ses fils, etc. Donc ça, c'est un mythe fondateur. Enfin, ça fonctionne comme un mythe fondateur pour les chiites parce que c'est leur imam qui a connu le martyr et donc son droit a été bafoué. L'exemple est très intéressant parce que si on regarde cet événement par les sources historiques, si on travaille vraiment en utilisant les sources au maximum, on va voir que bon, c'est un événement, la bataille a eu lieu. Mais ce qu'on voit en confrontant les sources et la manière dont elles sont utilisées par les deux camps, on voit que les sunnites ont programmé l'oubli, alors que au contraire, les chiites programment la mémoire et célèbrent même cette mémoire jusqu'à aujourd'hui, puisque cette bataille, elle est commémorée tous les ans, et ça s'appelle Ashura.
Et est-ce qu'on peut pas dire que c'est ça le moment de, peut-être pas de la scission, Sabrina Mirvin, pour ce que vous nous avez expliqué pourquoi c'est pas le mot adéquat, mais de l'officialisation d'une rivalité, pour ne pas dire d'une guerre?
Je crois que à l'époque, il n'y a pas eu d'officialisation. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On est en histoire, on est dans des processus, et il n'y a pas de moment où tout d'un coup, voilà, les choses, on dit c'était comme ça avant et après c'est différent.
Demain, on se retrouve pour la suite de notre série sunnite, chiite, guerre et paix. Et demain, on parlera justement des constructions identitaires et géopolitiques. À demain, Sabrina Mirvin.
À demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
La science n'a cessé de s'évertuer à prolonger nos vies. D'accord, pourquoi pas? Mais pour vivre, il faut des motifs. On ne peut pas juste bouffer et dormir. Ça ne peut pas suffire. Jeannette me scrute à la manière d'un médecin qui chercherait, à partir de détails physionomiques, à établir un diagnostic, à faire la preuve de l'affliction du sujet. Même si les gens, les choses que l'on a connues et aimées ont disparu, Il va de soi que l'on peut se tenir au milieu des tombes et des ruines et clamer sans faillir que l'on va continuer en dépit de l'hécatombe. Il va de soi que l'on doit estimer valoir la peine de durer plus que ceux que l'on a perdus. Eh bien moi, je ne suis plus certaine de posséder cette conviction, cette arrogance, cette foi en l'indispensabilité de ma petite personne. Être vivant, c'est être lié, relié. Et là, j'avoue que je ne vois plus bien. C'est un extrait du dernier roman de Céline Curiol, édité par Actes Sud, « Les vieux ne pleurent jamais ». Bonjour Céline Curiol.
Bonjour.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Passez votre chemin, bâtard, et filez vite au wagon-bar. Je fumerai ma cigarette tranquillement dans les toilettes. Partout c'est la prohibition, alcool à la télévision, papier clope manque de fric, et vieillir dans les lieux publics.
Elle ressemble un peu à Brigitte Fontaine, vos deux héroïnes, Céline
Curiol.
Oui, Curiole.
J'allais dire, en fait je ne connaissais pas cette chanson, mais ça, c'est parfait, si on fait un film de ce livre, ça pourra faire un bon générique, c'est parfait.
Prohibition. Alors parlons de l'héroïne de votre dernier roman, Judith Hogan, la narratrice, qui est une franco-américaine. Elle a 70 ans, elle est veuve depuis peu, actrice à la retraite, mais il faut dire, elle n'a marqué personne dans le monde du théâtre. Et la voilà seule, comme une rescapée. Mais elle aurait pu être très seule sans Jeannette, sa voisine, sa seule amie. Et avec Jeannette, Judith va sortir, voyager et surtout affronter le regard des autres, les souvenirs et les ressentiments les plus enfouis. Vieillir est un thème vieux comme la vie et la mort, on peut le dire. Mais comment vieillit-on aujourd'hui, dans notre époque? Et vous répondez à cette question par ce roman très, très subtil, Céline Curiol. Pourquoi ce thème?
Bon, déjà à titre, enfin, je pense que c'est un thème qui nous concerne tous. Alors, c'est vrai que je n'ai pas 70 ans comme les héroïnes du livre, mais.
Et que vous êtes loin de les avoir,
je
on peut
suis,
le dire.
Oui, oui, mais j'ai aussi, enfin, ma famille, ma mère, des tantes qui vieillissent, que j'ai vues jeunes en étant enfant et qui aujourd'hui dépassent l'âge de 70 ans. Et comme souvent, je m'intéresse aux femmes et à force de les observer ces dernières années, certaines d'entre elles sont devenues veuves, justement, et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'était devenue leur vie et comment elles vivaient en étant à la retraite, en étant seules, et certaines n'ayant pas forcément des enfants. Je me suis demandé quelles étaient justement les raisons de vivre qu'elles pouvaient avoir et comment elles abordaient cette... Alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot épreuve, forcément, mais cette nouvelle phase de leur vie.
Et ces questions, vous les posez au présent. Ça reste un roman très contemporain. Les vieux ne pleurent jamais, c'est-à-dire... C'est vraiment vieillir aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui.
Oui, absolument. C'était aussi... je voulais me poser la question de ce que c'était la place d'une personne qui est retraitée aujourd'hui et comment elle est vue, notamment une femme. Alors, par rapport à la société qui, me semble-t-il, offre une sorte de retraite dorée parce que, évidemment, il y a une retraite, il y a de l'argent, il y a une sécurité sociale. Mais en même temps, cette question que je ne suis pas seule à poser, à savoir quel rôle joue-t-on à partir d'un certain âge. Moi, j'ai vu ma mère considérer qu'elle n'avait plus aucun rôle à jouer à partir du moment où elle était à la retraite. Et ça, je trouve que c'est assez cruel et qu'on a tendance à favoriser la jeunesse, même dans les entreprises, dans les corporations, et à dire qu'à partir d'un certain âge, vous n'êtes plus...
optimale, vous n'avez plus forcément votre place. Et je pense qu'il y a un savoir, il y a une mémoire. Et ce que je voulais aussi souligner, une sorte de sagesse dans le fait de vieillir, où on met en œuvre tout ce qu'on a peut-être appris au cours de sa vie.
Alors pourquoi elle est franco-américaine ? Parlez-nous de Judith, ce personnage, pourquoi vous l'avez...
Oui, alors j'avais envie justement de en jouant sur ce... En ayant un personnage, Jeannette, qui est américaine, et Judith qui est française, mais qui vit aux États-Unis.
Depuis longtemps.
C'était aussi... Bon, il y avait une question par rapport à l'intrigue aussi, parce qu'il y a cette partie où elle est loin de sa famille, donc il fallait une distance géographique, mais aussi, je voulais montrer... à travers ces deux personnages, les décalages que moi-même j'avais perçus dans la façon dont on aborde la vieillesse aux États-Unis et par rapport à la France. Je voulais montrer qu'il y avait une différence d'approche, notamment du point de vue des femmes. Et Jeannette, par exemple, qui est américaine, se sent veloutée contre l'âge et pense qu'il n'y a pas une date de péremption et qu'on peut tout faire à n'importe quel âge, qu'on peut être séduisante, qu'on peut draguer, qu'on peut aller sur Internet chercher un nouvel amant et que ça ne... L'âge n'y est pour rien, alors que Judith est beaucoup plus
résignée.
Et aussi, il y a cette question du veuvage. Est-ce que, quand on a passé toute sa vie avec un homme marié, est-ce que quand cet homme disparaît, on est condamné à la solitude ? Ou est-ce qu'on est autorisé, ou est-ce qu'on s'autorise à refaire sa vie ?
Et puis, les souvenirs qui vont hanter Judith, ce sont des souvenirs français. Et puis, il y a un personnage, le frère, pour être très, très, très franc, qui va la rappeler un peu à sa culture d'origine, à ses racines, est-ce qu'on peut le dire ?
Oui, tout à fait. C'est ce frère perdu 50 ans plus tôt qui va faire avec lequel elle s'est brouillée, avec lequel elle n'a plus de relation. Et quand elle perd son mari, qu'elle se retrouve seule, elle va avoir envie de se retourner vers ce passé pour être sûre de ne rien regretter, en quelque sorte, et d'essayer de régler ces choses qu'elle a laissées, si on peut dire, en suspens 50 ans auparavant. Donc ça pose la question aussi de savoir, est-ce qu'il y a certaines choses qu'on doit faire avant de disparaître.
Et pour être franc, qui d'entre nous n'a pas soupiré en prenant un car, un avion, et en voyant débarquer plein de vieux, comme on ne le dit plus aujourd'hui.
Oui.
Et dans votre roman, Céline Curiole, vous décrivez justement une de ces escapades de vieux, ces balades du troisième âge, avec ce qu'il faut de cynisme et de drôlerie.
Oui, alors j'ai eu des lecteurs déjà qui m'ont dit « mais c'est pas du tout comme ça, les voyages organisés c'est très bien, alors pourquoi pas ?» Mais moi, en tant qu'écrivain, j'avais envie justement de tourner ça un petit peu en dérision et de montrer ce qu'il y avait de... d'un peu, pas désuet, mais peut-être d'un peu triste, d'un peu... Toutes ces personnes qui se retrouvent ensemble dans une passivité totale, que l'on trimballe à droite à gauche, sans vraiment leur demander leur avis.
Ceci dit, le circuit est très gratiné dans votre roman.
Oui.
Ça, c'est de la fiction.
Oui, mais bon, c'est le lieu, la fameuse fabrique de glace que vont visiter les Judith et Jeannette, existe bel et bien, et il y a bel et bien des visites de cette usine qui existe.
Avec des guides aussi tyranniques.
Ah non, peut-être pas aussi tyranniques. Évidemment, c'est exagéré, mais c'était aussi, pour moi, j'avais envie d'écrire un livre qui, au départ, soit drôle, où il y ait une énergie comme ça, assez sarcastique, ironique, c'était très important.
Et petit à petit, le côté dramatique commence à monter et à nous prendre. Alors justement, Céline Curiole, observer le monde, les gens, et puis inviter la fiction pour en rendre compte, c'est comme ça que vous définiriez votre travail d'écrivain ?
Absolument, oui. Je pense que alors c'est de la fiction, évidemment, mais ça part, je pense que j'aime beaucoup observer les choses, les gens, et de ces observations, je tire des idées, des inspirations, et puis j'ai envie de parler de choses contemporaines, et pas forcément politique, mais contemporaine.
À quoi voulez-vous que vos livres ou vos romans servent, Céline Curiole ?
À émouvoir. Et peut-être aussi, ce que je veux dire dans ce livre, c'est aussi, en parlant d'un autre livre, qui est Le Voyage au bout de la nuit, montrer comment les livres, comment l'écriture, la belle écriture, l'écriture riche, peut nous nourrir et nous aider à interpréter ce que nous vivons.
Que ce soit Céline ou Garcia Marquez.
Voilà.
Les vieux ne pleurent jamais, c'est édité chez Actes Sud. Vous restez avec nous, Céline Curiole, pour le questionnaire d'un autre jour.
<t'->
C'est le moment de découvrir les questions, Céline Curiol. Première question.
Je prends la première.
Bon, allez.
Je la lis. Quel est le plus ancien livre que vous avez chez vous ? Pas évident. Le plus ancien. Allez, je vais dire Crime et châtiment de Dostoïevski.
Ça date de quand ?
De quand j'avais 13 ans.
Oh bah c'est bien.
C'est pas mal.
Ouais. Deuxième question.
Un vieux film que vous affectionnez. Alors, j'ai regardé il y a quelques jours un vieux film qui s'appelle Soudain, l'été dernier. Je sais pas, vous voyez ce que c'est.
Bien sûr, oui, Tennessee Williams, Mankiewicz.
Mankiewicz, et je pense que c'est devenu un de mes films préférés.
Pour Alice Taylor, pour Paul Newman, pour la mise en scène.
Pour la mise en scène et pour cette extraordinaire scène de dialogue au départ qui dure 45 minutes et qui est une performance avec Catherine Hepburn et vraiment magnifique.
Superbe. Et enfin, dernière question.
Une vieille chanson que vous aimez bien. Oh ben alors là, je vais dire pour Les Aventuriers de Charles Aznavour.
Les vieux ne pleurent jamais. C'est le titre de votre dernier roman. Merci d'être venu, Céline Curiol. À vous de nous faire le générique de fin.
C'était Un autre jour est possible, le réveil culturel, tous les jours de la semaine à 6h du matin. Ou quand vous voulez, en passant par la page de l'émission disponible sur franceculture.fr. C'est une émission de Toufik Hakem, préparée par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre, avec ce matin, à la technique, Jeanne Richard Dufour.
Merci beaucoup Céline Curiol. On se retrouve nous demain avec au programme notre série consacrée aux chiites et aux sunnites avec Sabrina Mirvin. Et puis en deuxième partie, nous parlerons d'une exposition qui a lieu en ce moment au Jeu de Paume à Paris autour du photographe, des photos et des travaux d'un photographe hongrois, François Collard, un ouvrier du regard. Et ça sera la commissaire Pia Viovin qui sera mon invitée de deuxième partie. Bonne matinée sur France Culture.
Sont allés aussi loin que leur bateau pouvait les emporter pour savoir ce qu'on trouvait au bout de l'univers, pour savoir où finissait la mer. Ils se sont perdus entre le soleil et l'eau qui n'en finissent plus, accrochés dans les haubans, les yeux vers l'horizon, à deux doigts d'en perdre la raison. Pour ne pas se laisser mourir, ce qui leur a fallu subir, le saura-t-on jamais. Mais Dieu leur a donné des princesses pour esclaves et des rois enchaînés, et les clés d'un paradis, d'un monde merveilleux, des empires aux trésors fabuleux, fabuleux.